Europe 1, le 22-22-30, Élise Dangean.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h. Vous êtes sur Europe 1. Amplifier, accélérer, simplifier, voilà l'ambition du gouvernement en matière de stratégie vaccinale. L'exécutif passe à la vitesse supérieure et donne des garanties, le détail dans ce journal. Accélérer la vaccination, oui, mais rouvrir les bars et restaurants, pas question. Après une nouvelle réunion à Bercy, les professionnels du secteur sont bien obligés d'abandonner l'idée du 20 janvier. L'Allemagne sous cloche, avec des restrictions prolongées et renforcées. Et puis c'est une première. Un syndicat a été créé chez Google, le résultat de plusieurs mois de tensions. Le nouvel entraîneur du PSG, lui, a donné sa première conférence de presse. Il vous dira comment prononcer correctement son nom. Et on terminera ce journal en douceur avec un concert de musique classique donné ce soir au musée d'Orsay et à savourer de son canapé. Le temps, demain, restera hivernal sur une grande partie de la France, nous dira Anissa Dadi à la fin de ce journal, avec encore quelques flocons dans le nord-est et le retour du soleil sur la moitié sud. La Bourse de Paris, tous les détails avec Didier Hamot de boursier.com et puis l'interview écho dans 20 minutes. Emmanuel Duteil vous dira pourquoi ça coûte si cher de faire le plein. Il reçoit Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Amplifier, accélérer, simplifier, trois mots pour une nouvelle stratégie vaccinale contre le Covid-19. Le gouvernement accélère la cadence face aux nombreuses critiques qualifiées de stériles par le Premier ministre Mathieu Charrier. Cette fois, l'exécutif donne des garanties. Ça y est, on accélère.
Oui, avec une stratégie en trois axes, développée par Olivier Véran. Amplifier, accélérer, simplifier. Amplifier en ouvrant dès aujourd'hui la vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, qui rejoignent donc les soignants et les personnes âgées en EHPAD. À la fin du mois, ce sont les plus de 75 ans à domicile qui pourront accéder à la vaccination. Enfin, dans les prochains jours, le gouvernement veut ouvrir un fichier accessible en ligne où les Français qui le souhaitent, quel que soit leur profil, pourraient s'inscrire et prendre rendez-vous pour une vaccination. Ensuite, deuxième axe de cette nouvelle stratégie, accélérer. D'abord en demandant aux EHPAD de vacciner plus tôt quand ils sont prêts, puis en ouvrant des centres de vaccination dans les hôpitaux partout en France. 100 d'ici demain après-midi, 300 la semaine prochaine, 5 à 600 centres d'ici la fin du mois. Enfin, troisième axe, simplifier. Les infirmières et autres professionnels de santé pourront notamment vacciner sans la présence d'un médecin. C'était obligatoire jusqu'à aujourd'hui. Un médecin devra simplement superviser cette vaccination.
Mathieu Charrier, c'est une information Europe 1. Demain, 16 médecins représentants d'organisations se feront vacciner face caméra, notamment Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, mais aussi le médecin star Michel Simès. Une opération organisée par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, une trentaine de médecins ont signé une tribune afin d'appeler le gouvernement à accélérer la cadence, et notamment le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Il répondait à Isabelle Millet dans le journal de 19h.
Il n'existe aucune raison scientifique ou médicale de retarder le déploiement à grande échelle de la vaccination. La vaccination, c'est une course contre la montre. On l'a débutée en vaccinant les plus fragiles, les personnes dans les EHPAD. On sait que c'est un tiers des décès, mais ça veut dire qu'il y a deux tiers des décès hors EHPAD. Et donc, il faut protéger les gens, en commençant par protéger les soignants. Vacciner tous les volontaires et ne pas mettre de limite d'âge ou de comorbidité. Et puis ensuite, vacciner les personnes de plus de 65 ans qui seraient volontaires. On propose aussi d'acheter des vaccins.
Mais on pourrait en acheter où de ces vaccins? Il y en a quelque part encore?
On est bloqué par l'Union européenne. Et donc c'est on ça. Pourrait peut-être s'inspirer d'autres pays comme Israël, par exemple, qui a fait en sorte d'acheter suffisamment de vaccins. Et je pense qu'on peut activer certains réseaux pour se débrouiller pour avoir des vaccins, quoi qu'il en coûte. Rappelez-vous de cette expression du président, c'est celle qu'il avait utilisée. Et encore une fois, c'est une course contre la montre. On a perdu beaucoup de temps. Le variant anglais est présent sur le territoire. Martin Hirsch le disait. Ça veut donc dire que l'épidémie anglaise peut arriver chez nous et être transposée à Paris, en France, en Île-de-France. Et donc, par conséquent, le mois de mars 2021 pourrait être peut-être pire que le mois de mars 2020 si nous ne faisons pas quelque chose rapidement. On a perdu assez de temps, il faut accélérer le mouvement.
Il y a la question du nombre de vaccins, de l'accélération de cette campagne, et puis il y a aussi la logistique qui semble un petit peu compliquée. Vous voudriez qu'elle soit confiée à quelqu'un en particulier?
Oui, alors l'histoire de logistique, on peut le comprendre que ce soit plus difficile. Il y a la conservation, moins 80 degrés avec des super congélateurs, c'est compliqué, mais ça reste à mon sens accessible et on pourrait proposer de confier justement cette opération à une task force vaccinale qui disposerait de pouvoirs un peu plus étendus pour rendre compte de façon transparente et quotidienne l'utilisation des vaccins et qu'on en sache un peu plus.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, à retrouver tous les jours à 15h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez et à 8h35 dans la matinale de Mathieu Béliard. À noter qu'un nouveau conseil de défense se tiendra demain matin. Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole jeudi. C'est toute une Europe qui se calfeutre face à cette nouvelle flambée épidémique. Reconfinement en Angleterre et en Écosse. L'Italie qui repousse la rentrée de ses lycées, qui va fermer ses bars et ses restaurants ce week-end. Et l'Allemagne qui prolonge et durcit ses restrictions sanitaires. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Alors que les magasins et les écoles étaient déjà fermés, la chancelière Angela Merkel a décidé de mettre tout le pays sous cloche.
Oui, alors la courbe des nouvelles contaminations a bien fléchi depuis quelques jours. Il y a désormais ici moins de nouveaux cas qu'en France, mais la tension reste très forte dans les hôpitaux. Il y a eu près de 1000 morts en 24 heures et le gouvernement allemand estime qu'il n'y a pas assez de recul sur les réunions familiales pendant les fêtes. Autre facteur d'inquiétude, le variant de Grande-Bretagne, ce virus mutant. Et donc, tant qu'on n'en sait pas plus, pas question d'assouplir les restrictions décidées en décembre. Donc, pas de réouverture des commerces non essentiels en janvier. Et on laisse tous les enfants à la maison. Écoles, collèges, lycées et crèches restent fermées. On durcit même les règles sur les contacts sociaux. Avant, on pouvait se retrouver à deux familles. Désormais, en dehors de son propre foyer, on ne pourra plus voir qu'une seule personne, comme au mois de mars dernier. Et en ce qui concerne les déplacements, on va même encore plus loin que la situation du printemps. Pour la première fois, l'Allemagne met en place un rayon de 15 km autour du domicile, dans les zones où l'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Ça concerne quand même une grande partie du pays, 68 arrondissements, surtout dans l'Est, la Saxe et la Thuringe.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. De son côté, Pékin traîne les pieds alors que l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé chargée d'enquêter sur l'origine de la pandémie faisait route vers la Chine. Eh bien, elle a appris qu'elle ne disposait pas de toutes les autorisations nécessaires. Annonce faite ce soir par le chef de l'ONU. Très déçu, dit-il. L'un des experts a dû rebrousser chemin. Un autre attend dans un pays tiers. Il compte tous les jours depuis la fin octobre et il risque de compter encore quelques temps. Les restaurateurs espéraient une réouverture de leurs établissements le 20 janvier prochain, date évoquée par Emmanuel Macron. Sauf que cet horizon s'éloigne, c'est confirmé. Les restaurateurs ont été reçus à Bercy cet après-midi et malheureusement, Carole Ferry, aucune perspective ne se dessine pour le moment.
Effectivement, absolument aucune perspective de réouverture. Le doute reste entier, notamment sur la question des vacances de février. Les restaurateurs espéraient obtenir au moins une dérogation dans les zones vertes depuis le début de l'épidémie, mais la porte est restée totalement fermée. Selon le président du GNI, le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration, Didier Chenet, le ministre de l'Économie s'est montré très soucieux de la situation sanitaire, tout en ayant bien conscience de l'impact sur leur secteur.
Là, je tiens à le dire, c'était un soutien extrêmement marqué pour notre profession, nous disant bien que le soutien et les mesures qui ont été prises au mois de décembre seraient maintenues, mais voire même aménagées et, je dirais, élargies, car aujourd'hui, ces dispositions ne satisfont pas, bien entendu, les groupes. Vous avez des groupes qui perdent aujourd'hui 300, 400, 500 000 euros, voire beaucoup plus par mois. Ce qui n'était pas fait préalablement parce qu'on ne pensait pas que la crise allait durer aussi longtemps.
Cela concerne notamment les groupes hôteliers et les chaînes de restauration. Enfin, autre sujet abordé, le remboursement des prêts bancaires. Bruno Le Maire s'est engagé à négocier avec les banques pour obtenir un report des échéances de 2 ans pour les secteurs fermés administrativement.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Et pour essayer de rattraper un peu les dégâts du confinement, les commerces pourront ouvrir les dimanches de janvier. Au département d'en décider après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux. Une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle après la publication d'extraits d'un livre mettant en cause le politologue Olivier Duhamel. Il est soupçonné d'avoir agressé son beau-fils, alors âgé de 13 ans, Chloé Triomphe. Les faits remontent à la fin des années 80.
Oui, des faits qui auraient été commis alors que la victime n'avait que 13 ans et qui ont déjà conduit la justice à ouvrir une première fois une enquête. C'était en 2011. Le garçon était majeur depuis déjà longtemps. Il a été entendu par les enquêteurs mais n'avait pas déposé plainte. Et Olivier Duhamel n'avait pas non plus été interrogé. La justice avait donc classé sans suite. Aujourd'hui donc, nouvelle enquête sur la base des révélations faites dans le livre de la sœur jumelle de la victime. Pour la justice, plusieurs questions vont donc se poser. Y a-t-il d'autres victimes ou une seule victime? Pour la victime connue, les faits sont-ils les seuls? S'il y a d'autres victimes, quelle serait la nature des faits? Et dans chacun des cas, les faits sont-ils prescrits? C'est du cas par cas, en fonction de la nature des faits, en fonction de l'âge de la victime, sachant que le délai de prescription pour un viol est passé de 10 ans après la majorité de la victime à 30 ans depuis 2018.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30, Élise Dangean.
733, c'est le nombre d'emplois que le repreneur de Lapeyre, Mutares, envisage de supprimer dans ce groupe cédé par Saint-Gobain et qui compte environ 3500 salariés. Le repreneur avait déjà indiqué qu'il ne fermerait aucune usine. Ces suppressions de postes interviendraient donc dans les magasins. Le nombre d'entre eux qui fermeront reste pour l'heure inconnu. Et puis lui se bat pour garder son salarié et le garder sur le sol français. Un boulanger de Besançon a entamé dimanche une grève de la faim pour aider son apprenti guinéen menacé d'expulsion. J'ai 50 ans, j'ai fait 3 embolies pulmonaires en 3 ans. Mon médecin me dit que je suis fragile, mais je m'en fous, je sais que j'ai raison, clame-t-il, avec le soutien de la maire de Besançon qui a écrit directement au ministre de l'Intérieur. Un syndicat au sein d'une entreprise de la Silicon Valley, c'est une vraie révolution. Ce syndicat vient de voir le jour dans la maison mère du géant américain Google et c'est un symbole. Ce syndicat sera l'un des tout premiers au sein d'un fleuron de la tech, Xavier Yvon.
Oui, jusqu'à hier, si vous tapiez Google syndicat dans le moteur de recherche, eh bien, il n'y avait rien, ou presque. Désormais, vous avez une flopée d'articles de presse, dont cette tribune dans le New York Times, signée par les deux fondateurs de ce syndicat, deux ingénieurs informatiques. Le slogan de notre entreprise, c'était « Ne pas être l'artisan du mal », écrivent-ils. En unissant les travailleurs, nous voulons suivre cette devise dont leur entreprise, selon eux, s'est éloignée. Et ils listent leurs reproches. Nos patrons collaborent avec des régimes répressifs à travers le monde, ils développent une intelligence artificielle à des fins militaires, ils font des profits grâce aux publicités de groupes racistes. Et la goutte d'eau, ça a été le licenciement d'une chercheuse noire travaillant sur des questions d'éthique. On a beau être dans la nouvelle économie, dit-il en somme, il y a quand même de la discrimination, du harcèlement et des injustices sociales. Ils ne sont qu'une poignée pour l'instant, quelques centaines sur les 250 000 personnes qu'emploie Google. Mais c'est un signe que l'activisme a gagné une Silicon Valley dans la tourmente, elle qui prend une place grandissante dans notre vie quotidienne.
Xavier Yvon, course-poursuite mouvementée entre gendarmes et voleurs de grands crus près de Lyon. Les malfaiteurs qui étaient parvenu à faire main basse sur quelques 350 000 euros de vin dans la cave d'un relais château, ont dû abandonner leur butin. Ils ont pris la fuite à pied et sont toujours recherchés par la police. C'était sa toute première conférence, la présentation à la presse de Mauricio Pochettino qui entraînera demain soir son nouveau costume d'entraîneur du PSG. Paris qui jouera à Saint-Étienne pour la reprise de la Ligue 1. L'entraîneur argentin succède à Thomas Tuchel qui n'aura eu que 3 jours pour préparer cette rencontre. 3 jours aussi pour se familiariser avec le français, Julien Froment.
On ne va pas se mentir, il va y avoir du boulot. Mais pour nous aussi, d'ailleurs, comment prononce-t-on son nom? Eh bien, il y a deux façons.
Como italiano que soy, Pochettino. Pero en Argentina, Pochettino.
Voilà, c'est comme vous le sentez, Pochettino ou Pochettino. En tout cas, cela fait un peu plus de 17 ans que l'Argentin a quitté la France. Mais son amour pour le PSG est resté intact. L'homme de 48 ans est ravi de renouer le fil de son histoire avec le club de la capitale.
Realmente... Papa Noël.
Franchement, le Papa Noël m'a donné un super cadeau de Noël en me donnant la possibilité d'intégrer ce club que je connais bien depuis plus de 20 ans. Pour mon staff et moi, ça a été incroyable. Un rêve d'avoir joué dans ce club et de pouvoir revenir dans cette maison.
Alors ce point presse a été long, très long, presque une heure. L'Argentin a d'ailleurs déjà bien usé de la langue de bois sur les sujets les plus sensibles, comme le mercato par exemple. Il a aussi évoqué les deux stars, Neymar et Mbappé, sans pour autant les mettre sur un piédestal. Il a fait de la Ligue des Champions un objectif majeur du club. Il s'est aussi étonné que la composition d'équipe soit déjà dans la presse. Bref, Mauricio Pochettino a déjà tous les codes du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Ne lui manque plus que le match. Ce sera demain soir à 21h contre Saint-Étienne.
Merci Julien Froment. Un mot du Vendée Globe. À présent, le skipper Yannick Bestaven conserve la tête de la course alors qu'il navigue dans l'Atlantique Sud et qu'il doit composer avec un anticyclone qui joue les ralentisseurs. Il est suivi par Charlie Dalin. Et puis, bonne nouvelle pour le top 14. Bayonne va pouvoir reprendre l'entraînement. Le club ne compte plus aucun cas positif au Covid-19. Soirée magique ce soir pour certains d'entre vous qui ont pu assister à un concert de musique classique de leur canapé, Covid oblige, mais dans un lieu exceptionnel, le Musée d'Orsay à Paris. Du beau pour les yeux et pour les oreilles, Angèle Châtelier.
20 musiciens de l'ensemble Les Apaches ont joué pendant une heure au cœur de la nef du Musée d'Orsay, entouré d'œuvres d'art prestigieuses. Pour le chef d'orchestre Julien Masmondé, il y avait quelque chose de presque mystique.
On avait l'impression de dialoguer avec les œuvres d'art. On a joué, l'orchestre a joué au milieu des sculptures. Bien qu'on joue dans un musée, la musique classique et même les œuvres d'art ne sont pas figées. À travers la relecture, de revisiter toujours des œuvres et de créer de nouvelles, et ben on parle tout simplement de notre temps, on parle de l'histoire, mais on parle aussi de nous-mêmes.
Au programme de ce concert, des œuvres qui interrogent la nature. Histoire naturelle de Maurice Ravel, La création du monde de Darius Milhaud. Car mi-décembre, le musée d'Orsay aurait dû inaugurer l'exposition Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Alors la vidéo est entrecoupée de tableaux présents à l'exposition reportée sur la voix du baryton Stéphane Degout. Un concert à découvrir sur la chaîne YouTube du musée d'Orsay.
Voilà, merci Angèle Châtelier. On va maintenant jeter un coup d'œil à la météo avec vous, Anissa Haddadi. Bonsoir.
Oui, bonsoir Élise. C'est dans le nord-est, le bassin parisien, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes demain que le temps sera le plus couvert, avec encore quelques petites chutes de neige qui ne tiendront pas, ces flocons ne tiendront pas en ville. Mais sur les hauteurs, ça va blanchir les campagnes. Dans le nord-ouest, le temps reste instable. Le long des côtes de la Manche, sur le Cotentin et la Bretagne, le vent se calme demain, mais nous aurons toujours pas mal d'averses dans ces régions. En Corse, tout au long de la journée, il pleut, avec des averses qui seront même orageuses le matin. Et puis sur la moitié sud, le temps est plus sec. Après la dissipation des brouillards dans le sud-ouest, le soleil va bien se montrer l'après-midi, surtout au bord de la Méditerranée. Alors côté température, il fait toujours froid demain, avec des températures en dessous des normales. Moins 8 à Embrun, moins 7 à Mende, moins 5 pour Aurillac, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Nîmes, moins 1 à Nantes, 0 pour Marseille et Lyon, 2 degrés seulement pour Paris et 4 pour Cherbourg. Au meilleur de la journée, c'est stationnaire, quasiment comme aujourd'hui, avec moins 1 à 12 degrés, moins 1 pour Aurillac, 5 à Paris et 12 la maximale pour Bastia.
Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com, suivi de l'interview éco consacrée au prix de l'essence. Ce soir, Emmanuel Dutheil reçoit Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
À demain, 7h sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Élise Dangean.
Et on passe tout de suite aux infos de la bourse avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Élise.
Alors Wall Street tente un rebond, Didier, en attendant le résultat du vote en Géorgie pour les deux postes à pourvoir au Sénat américain.
Oui, c'est un petit peu mieux qu'hier. Le Dow Jones reprend 0,55%, 30 392 points ce soir. Le Nasdaq remonte aussi de 0,95%, 12 819 points. Oui, un marché prudent quand même, en attendant ce verdict des urnes qui va déterminer le futur équilibre politique des États-Unis. Pas beaucoup de risques donc, de petits rebonds sur les valeurs de technologie qui avaient baissé hier. Apple reprend 1,2%. 131 $, Amazon plus 1%, 3 220 $, Tesla plus 0,7, IBM plus 1,8, de petits écarts sur Facebook plus 0,7, Microsoft est stable, 217 $90. Le pétrole est plus nettement à la hausse, il rebondit de plus de 5%, de retour sur les $50 le baril WTI, après le dernier accord intervenu entre l'OPEP et la Russie avec un statu quo en termes de production. Ça donne donc les valeurs pétrolières en hausse, en nette hausse. Exxon en profite largement pour gagner 4,8% ce soir. Exxon à $43.50 à la clôture. Et puis l'euro reste très ferme, il grimpe sur les 1,23 face au dollar. Cela veut dire que l'euro est au plus haut depuis près de 3 ans.
Et la Bourse de Paris, elle a reculé prudemment de 0,4% en clôture ce soir.
Oui, alors c'était effectivement très calme. On a perdu 0,44% sur le CAC 40 exactement. 5564 points dans un marché très prudent à l'écoute de la situation sanitaire, toujours inquiétante en Europe. Beaucoup d'attentisme donc autour des grosses valeurs comme Michelin, moins 2%, 104,50 euros. Le broker JP Morgan vise un cours de 125 euros sur le groupe, le fabricant de pneumatiques. On a des baisses aussi de l'ordre de 2,5% sur Pernod Ricard, 155,40 euros. Et puis Vinci, EDF ou Bolloré reculent ce soir de 2%.
Et exception du jour, hein, Didier, Renault est remonté de plus de 2%.
Oui, c'est la bonne surprise. Hein. Renault, plus 2,2%, 36,57 euros après l'annonce des résultats commerciaux du groupe, qui sont très résistants malgré le fort recul du marché automobile en 2020. Le groupe Renault a maintenu une part de marché de plus de 26% en France. La gamme électrique en particulier a aidé Renault à résister à la pression avec la Zoé, bien sûr, hein, qui est restée la voiture électrique la plus vendue en France, avec plus de 39 000 véhicules écoulés. La Renault Zoé, vedette de l'année, donc, et Renault qui résiste bien et qui remonte de 2,2% ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse légèrement, mais ça baisse quand même un petit peu partout. Le DAX à Francfort, moins 0,5%, Bruxelles, moins 0,46%, Madrid, moins 0,10%, et donc le CAC 40 à Paris, moins 0,44%, 5564 points.
Merci Didier Hamaud de boursier.com et à demain. 22 heures passées, bientôt de 22 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Olivier Gantois.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de l'UFIP. L'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières. Et si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que, faut bien le dire, notamment pour les automobilistes, il y a quand même une petite mauvaise nouvelle en ce début d'année. C'est la hausse importante des prix de l'essence. Quand on va à la pompe, on s'en rend compte quand on fait son plein. On va prendre un exemple. Le gazole, qui est le carburant toujours le plus vendu en France, eh bien, le gazole valait vendredi 1,2754 € le litre. On va être très précis. Alors qu'il valait, le 6 novembre, 1,1968 €. Première question très simple. Pourquoi ça augmente autant?
Alors, dans le prix du gazoil, il y a à peu près 2/3 de taxes et 1/3 qui vient du prix du brut. Quand le brut augmente, le gazoil augmente. Depuis le mois de novembre, le brut a pris à peu près 10 $ le baril et ça s'est retrouvé dans les 8 centimes d'augmentation pour le gazole à la pompe.
Donc pour le moment, la raison principale, c'est parce que les cours du pétrole ont augmenté. Et ces cours du pétrole ont augmenté, semble-t-il, parce que on pense que, même si c'est compliqué en France, on pense que les vaccins vont arriver et que donc du coup, l'économie va repartir. C'est ça qui explique donc que les cours à la pompe augmentent, hein.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'après les premiers confinements, les cours du brut s'étaient stabilisés autour de 40 $ le baril. Ça a duré 5 mois. Et à partir du novembre, on peut dire qu'à chaque annonce de nouveaux vaccins qui allaient être approuvés, le prix du baril prenait 1 $. Et en tout, ça a fait une dizaine de dollars, oui.
Donc même si vous n'avez pas de boule magique pour les mois à venir, si les vaccins arrivent, si l'économie s'améliore, on peut donc parier assez logiquement sur une hausse à venir des cours de l'essence.
C'est très difficile à dire parce que vous avez des facteurs dans les deux sens comme souvent. Actuellement, il y a un certain nombre de pays qui reconfinent et d'autres qui envisagent de reconfiner. Si jamais on a à nouveau un confinement massif comme on avait eu au mois de mars et avril, on aura l'effet inverse et ça exercera une pression à la baisse sur les prix du baril. Donc c'est très difficile à dire.
Très difficile à dire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette année 2020 qui vient de s'achever a été une année extraordinaire en matière de consommation d'essence, puisqu'on a bien évidemment beaucoup moins roulé à cause des confinements à répétition. Et ça, ça se voit très clairement dans les chiffres de consommation en France.
Oui, alors je rappelle qu'au niveau mondial, on a commencé l'année à 100 millions de barils par jour de demande de pétrole et qu'on est descendu, le point bas, c'était vers le mois d'avril, 75 millions de barils par jour, c'est-à-dire moins 25%. On l'avait jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, une telle baisse. Et en effet, c'est ça qui a joué essentiellement sur la baisse des prix du brut.
Ce qui a joué sur la baisse des prix du brut, mais également sur le fait qu'on a tout simplement moins roulé. Si on regarde uniquement en France, on a beaucoup moins roulé, donc beaucoup moins consommé d'essence, et c'est notamment vrai du côté des entreprises.
C'est vrai du côté des entreprises, mais dans tous les moyens de déplacement routier, que ce soit les véhicules légers, les particuliers, les entreprises, ou que ce soit les poids lourds, tous sont moins roulés. Depuis le mois de novembre, depuis le reconfinement, on a une baisse de 25% de la demande de produits pétroliers en France.
Donc c'est bien évidemment des données qui sont extraordinaires. Si on regarde là encore l'année 2020, alors on n'arrête pas de dire, nous notamment les journalistes, c'est le boom extraordinaire des voitures électriques, c'est le boom de l'hybride, tout ça est en train d'exploser, ce qui est vrai, mais il n'en reste pas moins que de très 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 loin, le carburant le plus vendu en France, c'est le gazole encore aujourd'hui, Olivier Gantois.
Oui, je vais vous donner deux chiffres. Le nombre de voitures électriques plus hybrides immatriculées en 2020 est d'environ 350 000. Le parc de véhicules en circulation, c'est 38 millions. 350 000, 38 millions.
Ce qui est certain, c'est qu'une bonne partie de ce parc, notamment pour les flottes automobiles, roule au gazole. Donc pendant très longtemps, le gazole devrait rester encore le carburant le plus consommé en France. C'est ça que vous dites, Olivier Gantois ?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la consommation d'électricité pour les besoins du transport routier est quasiment négligeable aujourd'hui. Les carburants routiers sont essentiellement pour les 4/5 du gazole, pour 1/5 de l'essence. Et ça va rester encore comme ça un certain temps. Ceci dit,
quand vous dites un certain temps, d'après vous, dans vos prévisions, parce que là, ce n'est pas une boule magique, dans vos prévisions, ça va durer pendant combien de temps encore ?
Il va falloir quelques décennies pour que le véhicule électrique prenne le pas sur les autres types de véhicules parmi les véhicules légers. Quelques décennies.
Ce qui oblige une industrie comme vous, je rappelle que vous représentez l'industrie pétrolière, ce qui est malgré tout, à votre horizon, à vous, quelques dizaines d'années, un défi majeur pour se réinventer.
Oui, alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on propose non pas de lutter contre le développement du véhicule électrique, il se fera à son rythme, mais en parallèle, pour ce qui reste du côté des véhicules thermiques et des carburants liquides, de les décarboner. C'est-à-dire qu'on va remplacer progressivement ce qui reste en carburant liquide, on va les remplacer par des carburants décarbonés, notamment issus de biomasse.
Et tout ça, ce sera effectivement à suivre dans les années à venir. Un grand merci, Olivier Gantois. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci, Emmanuel Duteil. On vous retrouve aussi dès 13h demain aux côtés d'Elisabeth Assayag dans La France Bouge. Votre invité, Pascal Demurger, directeur général de la MAIF. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite sur Europe 1. Voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On change la méthode et on accélère. Ouest France vous propose de revoir toutes les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour aller plus vite en matière de vaccination. Et justement, comment piquer plus vite, s'interroge Libération. Le journal énumère des pistes. Alléger le protocole administratif, déléguer davantage aux collectivités locales, associer les pharmaciens ou encore recréer des vaccinodromes. Du Covid-19 aussi à la une du Figaro, qui nous emmène outre-Manche dans une Angleterre qui se reconfine. Tout comme l'Écosse, l'Italie repousse, elle, la rentrée des lycées, va fermer ses bars et restaurants ce week-end et prolonge l'interdiction de déplacement entre régions. Et puis l'Allemagne prolonge et durcit ses restrictions sanitaires. Les Échos, eux, s'intéressent aux défis industriels que représentent ces vaccins face à des attentes très fortes. Les industriels font tout pour augmenter leur capacité de production des vaccins ARN, dit le quotidien économique, qui vous propose un tour d'horizon des capacités de production et de livraison. Enfin, c'est une question que nous sommes nombreux à nous poser, mais à laquelle nous n'avons pas forcément de réponse. Comment 2020 a changé ma vie, titre La Croix, qui vous dresse 5 portraits de personnes dont l'année a été complètement chamboulée par cette pandémie. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Élise.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va toujours. Quand je m'assois dans ce studio Coluche, tout va bien.
Formidable. Et un numéro, vous le savez, les auditeurs aussi, le 3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui commence maintenant jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Vous pouvez les uns et les autres appeler dès maintenant au 3921. Et Natacha, Florian et Jean-Philippe sont en régie et attendent vos appels, chers amis. À tout à l'heure, Élise, pour le Flash à 23h.
À tout à l'heure.